Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui à Saint-Sauveur avec Clotilde Ney du CPIE Oise et nous allons partir pour une balade faunistique et floristique. Bonjour Clotilde.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le CPIE ? Je demande à chaque fois que je fais un reportage, mais c'est pas plus mal pour les auditeurs, je pense.
Alors le CPIE, c'est le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement situé à Senlis. Et c'est une association qui fait autant d'animations que d'études naturalistes et écologiques. On fait de l'animation avec plusieurs publics, avec des scolaires, ça va de tout petit jusqu'au lycéen, voire même plus, et du grand public. On fait aussi de la formation pour les élus, pour les communes. Et à côté de ça, on fait des études naturalistes et écologiques. Par exemple, sur les carrières, on a beaucoup d'études sur les carrières dans l'Oise, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour faire une carrière, il faut détruire l'environnement qu'il y a par-dessus, parce qu'on ne peut pas créer un trou et enlever l'environnement qu'il y a par-dessus et le poser ailleurs. Ça ne fonctionne pas. Donc, les carrières détruisent beaucoup l'environnement, et nous, on est là pour faire des études, pour savoir ce qu'on détruit, comment on peut le compenser, comment on peut recréer ensuite un autre milieu naturel quand la carrière n'est plus utilisée. Donc, ça, c'est le plus gros exemple qu'on a dans l'Oise.
Et il y a énormément de carrières, donc, qui sont encore construites de nos jours.
Les grosses carrières, en fait, elles achètent des terrains et elles creusent une carrière à un endroit. Elles remettent cet endroit-là en milieu naturel ou en milieu agricole. Et ensuite, elles vont creuser un petit peu ailleurs, en fait. Donc oui, il y en a toujours qui sont creusées, qui sont exploitées. Normalement, les carrières sont exploitées pendant 10 ans et tous les 10 ans, elles remettent le milieu qui a déjà été creusé, elles le réhabilitent et elles recreusent ailleurs.
Et vous, vous occupez de quoi exactement ces PIE ? C'est quoi votre poste déjà ?
Moi, mon poste à moi, c'est animatrice nature, donc je fais beaucoup d'animation auprès des scolaires et auprès du grand public. Je fais aussi de la coordination, donc tout ce qui est préparation d'animation, coordination avec les communautés de communes, les communes, avec les écoles aussi. Et je fais aussi un petit peu d'études naturalistes quand j'ai le temps, quand le temps le permet aussi. Donc je vais étudier moi surtout les oiseaux, les papillons et les libellules.
Donc ce sont principalement vos sorties ?
Pour le grand public, en tout cas, j'essaye de maxer vraiment biodiversité. Après, pour les scolaires, je fais aussi beaucoup de tri des déchets, compostage, recyclage. On fait du papier recyclé, par exemple, donc ça va être aussi axé développement durable.
Et ils entendent ça,
ce type de
leçon, entre guillemets ? Est-ce que ça fait cheminement dans leur esprit ?
Alors, il faut leur faire faire des choses ludiques. Donc, par exemple, quand on fait des animations papier recyclé, ça nous permet de parler aussi du tri des déchets, de donner une seconde vie aux déchets. Et il faut beaucoup de répétitions pour les enfants. Donc, après, c'est surtout, ils vont en parler à leurs parents. Et c'est ça le message qu'on veut faire passer, parce que des fois, les parents ne sont pas vraiment intéressés, même par la biodiversité. Si on dit aux parents qui ont beaucoup de travail qu'on va parler des petits oiseaux ou des petites plantes dehors, ça les intéresse pas particulièrement. Alors que si c'est les enfants qui leur amènent le message à la maison, ça passe un peu mieux.
Vous avez été formée pour travailler pour le CPIE ?
Oui. Alors pour travailler pour le CPIE, pas vraiment. J'ai été formée dans l'environnement, donc pour travailler dans le domaine de l'environnement. Mm-hmm. Je remonte au tout début. J'ai fait un bac sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, donc un bac technologique. J'ai choisi de pas faire un bac général parce que je voulais voir ce qui se passait vraiment sur le terrain, pour avoir un stage, d'avoir une vision concrète de ce qui se passe dehors, entre guillemets. Et ensuite, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature en Corrèze. Après ça, j'ai voulu rattraper le niveau d'études internationales, donc c'est le bac plus 3, parce qu'il n'y a quasiment qu'en France qu'on fait des bac plus 2 avec le BTS. Donc j'ai fait une licence professionnelle, donc c'est pas une licence où on reste enfermé dans une salle de classe. Il y a 5 mois de cours, 6 mois de stage. Et après cette licence-là, j'ai décidé d'arrêter les études et de faire un service civique. Donc j'ai fait le service civique au CPIE des Pays de l'Oise, où j'ai pu continuer ensuite en CDD.
Pourquoi vous avez choisi l'environnement ? Parce que vous êtes jeune, l'urgence climatique, etc. Tout ça, ça vous touche particulièrement ?
J'ai 23 ans et depuis toujours, en fait, c'est ma mère qui m'a transmis l'envie de travailler dans l'environnement. Ma mère n'a pas pu, parce qu'elle était allergique à tout ce qui est possible d'être allergique. Donc, elle nous a transmis ça à mon frère et à moi. Donc, j'ai choisi de suivre la voie de l'environnement pour pouvoir... pas pour pouvoir sauver le monde, parce que maintenant on sait que c'est un petit peu perdu d'avance, sans vouloir être pessimiste, mais de pouvoir donner des clés aux gens pour qu'ils puissent entretenir leur petit bout de jardin, leur cour d'école si c'est des enfants, le patio de leur immeuble s'ils ont un immeuble, leur balcon s'ils ont un balcon, et de leur faire comprendre que il y a plein de merveilles dans la nature, que c'est important de se reconnecter à elle et de pas considérer ça comme sale ou comme effrayant, qu'on a beaucoup de choses à tirer de cette nature et qu'on peut y trouver donc des avantages, et que tout détruire, ce n'est pas la solution.
Bravo, écoutez, c'est un beau message. Aujourd'hui, donc cette balade faunistique, floristique, on part en forêt ?
On part en forêt, donc là on va partir dans la forêt derrière là, le cimetière qu'on a derrière nous. On va aller faire une petite balade, ça va durer entre 1h30 et 2h, suivant ce qu'on entend, ce qu'on voit, parce que de toute façon les balades nature sont aussi guidées et rythmées par ce qu'on trouve et par ce qu'on voit. On va faire de l'écoute d'oiseaux, je pense qu'on va faire aussi un petit peu de reconnaissance de plantes. Je vais parler un peu de légendes.
De légendes ?
Ouais, d'animaux, de plantes. En fait, j'aime beaucoup parler du lien qu'on a eu et qu'on peut avoir encore avec les plantes et les animaux, parce que faire des balades nature quand on a un public qui n'est pas vraiment, aguerri ou même sensibilisé à la cause environnementale, si on leur dit ce papillon il est joli, il est important parce qu'il maintient telle plante, les gens n'y voient pas vraiment d'avantage pour eux. En revanche, si on leur dit là il faut protéger ce papillon là parce qu'avant on pensait qu'il y avait une légende reliée à ce papillon là, une déesse quelconque qui était reliée à ce papillon là et à cette plante donc là qui était super importante parce que nous on s'en servait pour soigner telle ou telle maladie ou tel mot. Du coup, ça donne de la compassion pour ce papillon, pour
et
cette
une
plante.
Une profondeur aussi.
Voilà, c'est ça, une profondeur et les gens s'y attachent et en fait on ne protège que ce qu'on connaît et que ce qu'on aime. Dire aux gens il faut protéger cette plante parce qu'elle est jolie, ils vont pas forcément relier ça à leur histoire, à eux, et donc ils vont pas forcément la protéger, alors que si on leur dit ce papillon là, cet oiseau là il a un lien, il a une histoire avec nous, avec un grand H, ils vont avoir plus de sympathie pour lui et donc plus de facilité à le protéger.
Ça veut dire que vous êtes beaucoup documenté aussi sur la question,
j'imagine. Oui, c'est une de mes passions, donc ça peut chercher les légendes, les histoires qu'il peut y avoir entre la nature et nous, et ce que j'aime bien aussi c'est de relier l'histoire des lieux avec nous, parce qu'avant on protégeait mieux l'environnement parce qu'on n'avait pas toutes les technologies d'aujourd'hui, on n'avait pas de voiture, on se baladait avec des chevaux, on était plus en lien avec la nature et avec l'environnement. Et donc toutes les légendes nous viennent d'avant et de notre histoire avec un grand H toujours. Donc oui, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, j'ai beaucoup de livres avec tous les liens entre les plantes, les animaux et nous.
Super. Juste un dernier mot, comment trouve-t-on les informations sur les sorties, les conférences organisées par le CPIE ?
Vous pouvez appeler le CPIE des Pays de l'Oise, vous pouvez nous envoyer un mail aussi, donc vous trouvez toutes les informations sur internet cpie60.fr. Et du coup, les informations des sorties sont aussi sur le site internet.
Ok, merci beaucoup Clotilde.
De rien. Sur cet arbre-là, qui est donc un érable sycomore, on le reconnaît parce qu'il a les feuilles un petit peu plus rondes que l'érable plane. Sur l'érable, on a un énorme pied de lierre. D'après vous, est-ce que c'est nocif ou pas pour cet arbre, le lierre, ce gros pied-là ?
Question étant posée comme ça, on dira non.
Ça pourrait, hein. En fait, là, on voit que le lierre, il est posé contre l'arbre, qui va avoir une racine qui prend son départ là de l'autre côté du tronc. Et si on essaye de le bouger un peu, je vais essayer de le faire, mais il a l'air d'être quand même costaud celui-là. Mais quand on fait ça, je l'entends, en fait, il est décollé de l'arbre. Vous voyez, là ? Donc en fait, il est complètement décollé de l'arbre. Là, si on lui prend un peu, il a des petits poils partout sur le tronc, ça s'appelle des pieds. C'est ce qui lui permet de s'accrocher au tronc des arbres. Donc j'entends souvent en animation des gens me dire qu'ils ont viré tous les lierres de chez eux parce que ça faisait mourir les arbres. En fait, c'est juste que leurs arbres, s'ils sont morts avec du lierre dessus, c'est que l'arbre était déjà en train de mourir et que le lierre n'a fait que accompagner la mort de l'arbre, il ne l'a pas causé. Le lierre, en aucun cas, il va transpercer l'écorce. Ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est juste un support. Donc l'arbre, c'est un support pour pouvoir monter et atteindre la lumière. On pourrait se dire, il va piquer la lumière de l'arbre. Mais le lierre, là, il va quasiment pas aller sur les petites branches où il y a des feuilles, en fait. Il va rester sur les grosses branches où il n'y a pas de feuilles. Et une fois que l'arbre est mort, on ne voit plus que le lierre. C'est ce qui rend la chose un petit peu plus compliquée pour les gens. Parce qu'ils se disent, oui, mais du coup, le lierre, il a pris toute la place, il n'y a plus que les feuilles du lierre. Regardez, mon arbre, il est mort. C'est que l'arbre était malade bien avant et le lierre, il s'est juste enroulé autour. Le lierre, c'est bénéfique pour l'arbre parce que ça va permettre à l'arbre de ne plus recevoir directement les particules de pollution. C'est le lierre qui va les absorber d'abord et non pas le tronc de l'arbre. Il faut savoir qu'un arbre, son tronc et son écorce sont assez fragiles. Si il y a une entaille dans l'écorce, il y a toute la vie de l'arbre qui est... En gros, on lui a sorti ses tripes, quoi. L'intérieur d'un arbre est mort. C'est l'extérieur de l'arbre qui fait toute la survie de l'arbre. Donc il va y avoir une écorce qui va amener l'eau et les minéraux vers les feuilles et une autre écorce un petit peu en dessous qui va descendre en fait dans toute la structure de l'arbre l'eau et les minéraux qui ont été transformés en sucre. Ça je vous l'apprends pas, les arbres font la photosynthèse, c'est ce qui leur permet de transformer l'eau grâce à la lumière en sucre. C'est pour ça qu'ils peuvent grandir tout seuls sans se nourrir. Donc là, s'il y a du lierre, celui-là est monté très haut, mais admettons s'il y a une entaille dans l'arbre un peu plus haut, c'est le lierre qui va d'abord recevoir par exemple les maladies, les champignons, avant que l'arbre ne soit atteint. Donc en fait, le lierre,
c'est une protection.
C'est une certaine protection. Et là, derrière, on le voit, là, il y a un arbre qui a du lierre partout sur le tronc. Si cet arbre-là a un jour une lésion, c'est le lierre qui va d'abord prendre pour l'arbre, et c'est ensuite l'arbre qui aura cette attaque.
Moi, j'avais entendu dire que il y a des jeunes arbres quand même qui peuvent mourir à cause du lierre. C'est faux,
si
ça
le lierre, en fait, si le lierre est trop lourd et que l'arbre est trop, le lierre ne va jamais causer la mort de l'arbre. Si l'arbre il pousse là, par exemple, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de soleil, le sol n'est pas terrible, il y a déjà des arbres partout tout autour qui lui coupent toute la lumière, qui doivent le priver des minéraux. Donc si du lierre, parce que là on voit le lierre, il tapisse toute la forêt, si le lierre commence à monter sur cet arbre, que déjà il a du mal à trouver ses minéraux, bah, le lierre ne va pas l'aider forcément, parce que du coup ça va lui faire du poids, ça peut lui casser des branches, donc voilà, ça peut être compliqué. Mais c'est parce que l'arbre n'était pas non plus particulièrement viable, quoi. Il allait rester des années sous forme de buisson et finir par s'épuiser. Puis le lierre, on peut s'en servir, ça peut nous être utile pour faire de la lessive. On peut faire de la lessive au lierre. Alors je vous conseille pas de laver vos vêtements blancs avec de la lessive au lierre, parce qu'ils vont vite être gris. Mais la lessive au lierre fonctionne pas mal pour les vêtements noirs ou pour les vêtements quand on fait, par exemple, quand on sort dehors, qu'on fait du jardinage et tout, on peut faire notre lessive avec de la lessive au lierre. Donc il suffit de faire bouillir les feuilles de lierre dans de l'eau, on laisse reposer et voilà.
C'est une macération.
C'est plus une infusion. En fait, on fait sortir le savon, on fait saponiser le lierre en fait. Et quand on secoue l'eau qui nous reste, bah, l'eau elle mousse. Donc voilà.
Voilà, c'était la première partie du reportage que j'ai fait avec Clotilde Ney, qui est animatrice nature pour le CPIE des Pays de l'Oise. Vous pourrez écouter bientôt la seconde partie de ce reportage. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.